France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, 3, hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui saute sur tout ce qui sonne. Dernière émission sur l'instant, ce thème qui nous a occupé pendant 5 émissions, autour de ces tout petits moments de son. Et pour terminer en beauté, je reçois le compositeur Colin Roche, directeur artistique du projet Bloom, qui n'a de cesse de questionner le moment de l'écriture, le moment où l'idée arrive et s'écrit sur le papier du compositeur. Que ce soit dans des œuvres enregistrées ou des performances publiques, Colin Roche fait entendre la genèse de son œuvre, pour isoler l'instant de création bien avant l'instant d'interprétation. Une rencontre poétique et sonore, au fil d'œuvre, qui questionne la création elle-même. Et comme chaque mardi, un son piqué à vif. Le Cri du Patchwork, thème numéro 25, épisode numéro 5, séquence numéro 1.
Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Le rebond. Comme cette porte de bois qui rebondit après avoir été lâchée. Faire rebondir, c'est, à partir d'un impact, créer une succession de répliques de cet impact, mais toujours en décrescendo, en diminuendo. On pourrait rapprocher l'utilisation de l'effet du delay avec un rebond, comme nous en avons parlé il y a quelques semaines déjà. Yannick Dobie, dans sa pièce appelée « Rebond », use ainsi du delay et ajoute à cela un rebond stéréophonique, trompant totalement la perception. Une sorte de rebond électronique. C'est avant tout un objet qui rebondit. Le guitariste Asse Poulsen a pendant plusieurs années travaillé avec des gobelets en plastique qu'il manipule sur sa guitare, posée sur ses genoux. Les gobelets sont alors lancés, lâchés au-dessus des cordes de l'instrument, créant de tout petits rebonds, ici, en écho à la contrebasse de Joël Léandre et la clarinette de François Houle, qui rebondissent tout autant. rebondir, un objet doit être fabriqué dans une matière élastique, ou bien être lancé sur une surface élastique. Sur un archet de violon, le fait de tendre la mèche rend alors les crins de cheval extrêmement élastiques, permettant de faire rebondir l'archet facilement. Et depuis les grands virtuoses du XVIIIe siècle, comme Locatelli, maîtriser le rebond de cet archet pour jouer des traits rapides est devenu un enjeu. Deux exemples de ces rebonds d'archet. Le saltato du Caprice numéro 9 de Niccolo Paganini et les menus rebonds d'Helmut Lachenmann dans son quatuor Gran Torso. Dans cet extrait de Gran Torso d'Helmut Lachenmann, on entend les rebonds d'archets se transformer peu à peu en rebonds plus métalliques, plus petits. Ce sont des rebonds réalisés avec la baguette en bois de l'archet, le fameux mode de jeu en col legno, déjà présent chez Berlioz dans la Symphonie Fantastique par exemple. Ici, Helmut Lachenmann demande à jouer le rebond de l'archet jusqu'au bout, pour entendre parfaitement ce geste à la courbe si caractéristique. Et on peut devenir virtuose du rebond en col legno. Écoutez Ernst Reichsteger, violoncelliste improvisateur, qui fait le tour de son instrument dans son solo Crystal Palace, où le moindre geste, comme le rebond, peut transformer l'instrument en percussion polyphonique. « la pièce qui rebondit. Rebond de Yanis Xenakis pour un percussionniste sur peau et bois, où l'on perçoit au fur et à mesure de la pièce des rebonds de plus en plus serrés, réalisés à une seule main à chaque fois, créant de petits tremblements furtifs, incisifs, concis, se multipliant discrètement. Car le rebond fait partie des techniques à acquérir lorsque l'on joue des percussions. Le tambour est un instrument rebondissant, comme la gambarde. Ce petit appareil à mettre en bouche, dont une lamelle pincée avec les doigts se met à vibrer, ou plutôt rebondir dans le vide de la cavité buccale, et ainsi créer un son modulé par la bouche de l'exécutant. Et il y en a partout des guimbardes, dans le monde entier. Un choix très rebondissant, une guimbarde des îles Vanuatu, où on n'entend quasi plus que le rebond. Autre instrument qui rebondit, le vibraslap. Mais si, vous savez. Eh bien, le vibraslap, c'est un instrument doté d'une boule accrochée à une tige métallique. Et lorsque l'on frappe la boule, cela fait vibrer la tige jusqu'à une petite boîte contenant des sortes de grelots de métal qui se mettent à vibrer également. Et évidemment, on obtient un effet de rebond parfait. Combien de vibraslap dans quantité de musique différente? Un exemple où on l'entend bien. Nothing but a G-Thang de Snoop Doggy Dogg et Dr. Dre en 1992. Du rap old school de chez Old School.
One, two. Bringing to the folks, Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up,
cause you know we're about to rip shit up.
Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-Thang, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective, and before me digging a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man, and at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. And that's realer than real deal, Holyfield. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, Anna. It's like that and like this and like that.
Le vibraslap, l'instrument rebondissant par excellence, où l'on peut contrôler à peu près les rebonds, en fonction de la force de la frappe que l'on émet. Et puis, il y a des rebonds incontrôlables, déclenchés par des courts-circuits, où les machines prennent alors le dessus sur le musicien-performeur pour vivre leur indépendance sonore. Valentina Vuksic, artiste noise que j'ai découverte au festival Sonic Protest il y a quelques jours, joue. Ouvre, triture les ordinateurs et disques durs pour les écouter créer une matière sonore totalement folle. Comme dans ce Batch Loop on ThinkPad G40, où les événements microscopiques se multiplient et s'emballent dans une course rebondissante incroyable. J'avoue ne pas savoir ce qui rebondit ici, mais l'accumulation de ces micro-sons dans tous les sens me fait vraiment penser à une musique rebondissante. un rebond tout en impact et frénésie. À l'autre bout de la chaîne de la création musicale, le rebond de Michael Levinas pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et trois pianos nous embarque dans un environnement où le rebond se laisse deviner. Les trois pianos sont accordés différemment, l'un dans le système tempéré au demi-ton, l'autre en quart de ton, le dernier, lui, est agencé au 16e de ton. Ce qui permet de créer cette matière sonore élastique et rebondissante totalement incroyable, que l'on penserait sortie tout droit d'un ordinateur. Que nenni. Une musique où le rebond est l'image d'un son élastique.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Colin Roche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes compositeur et directeur artistique du projet Bloom, un projet interdisciplinaire entre art visuel, dramaturge, compositeur, et puis vraiment avec cette idée de pouvoir casser des frontières. Et puis la frontière, vous êtes en train de la casser en ce moment, d'après moi, Colin Roche, puisqu'avec un autre de vos collègues, compositeur, Jacopo Baboni-Schilinghi, vous avez entrepris une performance qui s'appelle Pretensio. Pendant 12 heures, vous êtes en train d'écrire devant le public. On vous voit composer sur du papier, tandis que Jacopo Baboni-Schilinghi compose sur des corps. Et on vous voit dans cet instant de composition qui vous est si cher. Alors Colin Roche, qu'est-ce que vous essayez d'attraper quand vous écrivez devant le public ?
J'essaye de ne rien cacher sur la difficulté, l'impossibilité même d'écrire et de poser sur du papier l'idée musicale. C'est quelque chose qui me hante depuis que j'ai commencé ce métier. Je ne comprends pas comment on peut continuer, d'une certaine façon, à vouloir absolument poser sur le papier une idée qui est aussi abstraite que l'idée musicale. Et donc, puisque c'est une impossibilité, je continue, je cherche, et je cherche à rendre cet acte préhensible. Je ne vois aucun mystère derrière tout ça, si ce n'est le mien, c'est-à-dire mon rapport à l'écriture. Mais je ne crois pas que pour la musique de création, la musique d'un temps, le public puisse penser qu'il y a autre mystère que le rapport d'un créateur avec son support.
Et le support, c'est vraiment le papier et le crayon. Et dans cette expérience Pretensio, cette performance, vous changez de papier, vous allez chercher justement à tracer vous-même vos portées, créer l'espace dans lequel les sons pourraient à un moment arriver pour un créateur qui attend finalement l'inspiration.
Bah oui, vous savez, on parle beaucoup de la page blanche, c'est impensif, l'angoisse de l'écrivain face à la page blanche. Mais qu'est-ce que c'est que cette page blanche? Comment la dessiner? Comment la penser? Comment la penser par rapport à un public qui pourrait regarder? Et comment la rendre le plus palpable possible, la plus réelle possible? Il m'a semblé qu'il fallait pousser la chose encore plus loin que de travailler sur des papiers avec des portées préinscrites, dans des cahiers, dans des supports préexistants, et qu'il fallait vraiment repartir du choix du papier par rapport à sa main, par rapport au crayon, par rapport à sa douceur. Tout ça fait partie du rapport qu'on va avoir avec cette page blanche.
Et c'est vrai que vous êtes venu aujourd'hui dans le studio avec ces grandes partitions, et on voit à l'intérieur tout d'un coup des idées musicales, comme si vous les attrapiez, c'est-à-dire que comme si tout d'un coup l'idée venait de quelque part. Et là, je vous propose d'écouter tout de suite un morceau dans lequel vous êtes parti d'une idée, on va en reparler. Je vais laisser d'abord écouter les auditeurs. C'est un morceau qui a été interprété par le trio KDM, un trio pour accordéon et percussion, et là c'est le volet en jalousie, propriété du soupir, nous sommes en 2010. Volet en jalousie, propriété du soupir de Colin Roche, enfin un extrait. Nous étions en 2010, ici interprété par le trio KDM. Alors Colin Roche, là on entend vraiment des formes d'objets musicaux ressassés. Enfin, c'est vraiment ça que j'ai comme image, c'est-à-dire qu'on a ce râle d'accordéon qui revient quasiment de la même manière à chaque fois. On entend le soufflet qui est frappé et puis des parcelles de percussions qui émaillent un peu le tout, et comme si ces objets allaient s'imbriquer au fur et à mesure et créer une nouvelle image, et puis un rebond qui fait écho à notre sonothèque du jour, le tac-tac-tac-tac-tac. En fait, tout ça est parti d'un instant de son que vous avez eu entre les mains.
Un instant assez particulier, puisque je n'avais pas prévu que ce serait cet instant-là qui ferait la pièce. J'avais, comme je le fais souvent, quand j'ai décidé de travailler sur l'idée du volet, cherché des volets qui pourraient... En tout cas, au niveau sonore, me donner quelques idées. Donc, ne trouvant pas de très jolis volets autour de Paris, et j'ai demandé à un ami qui habitait en Bretagne d'enregistrer son volet. Il était très beau. Le seul souci, et qui fut une belle surprise, c'est que Simon Artignon est aussi plasticien, et que si vous lui donnez l'idée d'un volet, il en fait quelque chose. Donc, il a tout de suite enregistré et jouer avec son volet. Et finalement, quand j'ai reçu cet instant de douzaine de minutes dans laquelle il a joué avec son volet, je me suis dit qu'il y avait finalement quasiment rien à changer. Et que l'instant, ça n'était finalement pas moi qui l'avait créé, mais c'était lui. Et qu'il fallait en rester absolument à ce que c'était. Et que c'était dans cet instant-là qu'il y avait la matière de l'œuvre.
C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a écouté est une forme de transposition sonore du volet physique, concret, pour trois musiciens, et on est vraiment dans cette succession de gestes faits avec un volet.
Absolument. On n'en sort jamais. Il y a une petite exception à un endroit, un clin d'œil à un des interprètes. Dans l'enregistrement de Simon, il y avait un moment où on entendait les cloches de l'église. Et c'était vraiment très très joli, parce qu'on a un volet de l'air, les cloches. Et les cloches, elles sonnent donc à un moment et elles sonnent quelques minutes plus tard. Et j'ai voulu me servir, qu'est-ce qui se passe entre ces deux cloches, je ne le sais pas, puisque je n'y étais pas. Mais je m'en suis servi pour offrir une sorte de solo à Bachar, qui est un joueur de cajon incroyable. Et donc je lui ai écrit au milieu un espèce de solo pourri de cajon. Donc il se déplace au son des cloches sur cette pièce, il arrive avec son cajon, il se met au centre de la scène pour faire son solo que tout le monde attend, et il joue 3 notes et demie et il repart. Et on en revient au volet. C'était un clin d'œil, j'avais beaucoup beaucoup ri à imaginer cette chose.
Ce qu'on voit par contre dans votre démarche, Colin Roche, c'est que vous prenez le son, en tout cas l'instant de son qui vous arrive à l'oreille ou bien dans votre tête, comme il est, quasiment sans le retravailler. C'est aussi une démarche chez vous dans votre composition, c'est que vous prenez vraiment le son et vous le mettez sur le papier et après, il fait sa vie.
Bah oui, il fait sa vie parce que il me semble que la problématique de la composition, ce n'est pas tellement la matière sonore que son agencement. C'est le terme même de composer. Et je ne vois pas pour moi d'intérêt à aller beaucoup plus profond dans la réalité de la matière sonore qui est extrêmement riche, qui est belle, qui est poétique. Mais justement, c'est dans la poétique, dans la profondeur de cette poétique qu'il faut creuser. Et même si on ressasse l'idée, chaque fois on l'affine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est partir de cette matière, ne jamais en sortir, mais toujours être plus profond dans cette matière-là.
C'est ce qui se passe dans ce projet Pretensio où vous êtes pendant 12 heures à écrire sur des partitions. Donc pour décrire un peu ce qui se passe sur ces partitions, c'est qu'il y a des longs moments de silence qui sont notés sur plusieurs pages et puis tout d'un coup, il y a marqué le mot Inventio et on a des notes qui sont notées sur la partition comme étant une sorte de jaillissement de création. Là, on est vraiment sur ce geste, alors excusez-moi, peut-être que c'est une insulte, ce geste romantique de l'artiste qui vraiment reçoit une inspiration et le jette sur le papier. Est-ce que vous, dans ce projet-là, vous êtes justement à nous créer cette attente et nous faire comprendre que finalement le créateur, le compositeur est en attente de cette inspiration, Colin Roche?
Alors là, je vais à peu près dire l'inverse, je pense. Mais pour arriver finalement à la même conclusion, c'est qu'effectivement, quand il y a même 5 secondes de musique écrite sur ces partitions qui sont pleines de silence, l'instant, il apparaît graphiquement. On voit que d'un seul coup, il y a de la musique. Ceci dit, pour moi, il n'y a pas d'instant. Il y a un long moment de silence, de stress, de concentration. Et le silence qui arrive avant, tout ce qui se passe avant, et même ce qui va se passer après, fait partie de cet instant-là. Simplement, musicalement, il va devenir une seule toute petite chose.
Vous êtes en train d'écrire ce silence, mais il dit quelque chose. Il dit, en fait, ce cœur que vous écoutez, parce que donc là, il faut parler de cette installation, parce qu'il y a une forme d'installation. Si vous êtes en train d'écouter votre cœur qui est capté par des capteurs qui sont sur vous, et c'est votre cœur qui va vous dire combien de silence il va y avoir dans votre partition. C'est à peu près ça, Colin Roche.
C'est à peu près ça. Alors moi, je ne l'entends pas, mais je le sens. J'ai donc des capteurs et un logiciel qu'on a développé pour être d'une certaine façon facturé du temps que je passe devant ma feuille à ne pas écrire, à ne pas être dans cet instant que tout le monde espère de manière très romantique, un jaillissement venu de on ne sait où. Et simplement, il est très difficile de le poser sur le papier. Et plus d'ailleurs le papier est beau, plus le moment est intense, plus il est difficile de le poser. La rature est interdite, l'erreur est possible, mais elle est notée. Et elle est jouée quasiment tout de suite. Donc je me suis dit que j'allais me facturer ce silence de l'écriture. Et donc j'ai développé un outil qui fait que, de manière régulière, mon cœur est transformé en tasset, c'est-à-dire en mesure de silence, en ensemble de mesures de silence, rapporté à mon battement cardiaque. Et je reçois donc une facture, comme au supermarché, qui me dit que j'ai, pendant tout ce temps où je n'ai pas écrit, tout ça de silence à réécrire. Ce que peuvent entendre les gens qui sont là pendant la performance, au casque, une seule personne en face de moi, c'est le contrepoint entre mon cœur en direct et les sons produits par l'écriture à la table.
Alors c'est vrai que le son de l'écriture était très important, par exemple dans un disque que vous aviez produit il y a quelques années, c'était en 2006, c'était La Robe des Choses, on entendait vraiment le crayon et le papier, et le geste est très important pour vous. Je propose d'écouter une pièce dans laquelle le geste est au centre de tout, on entend d'ailleurs le geste, et on a envie de voir ce geste, parce que votre musique se voit aussi, Colin Roche. C'est un extrait de La Figue, incisivement, pour piano, en 2010. Le tout début de La Figue, incisivement, de Colin Roche. Nous sommes en 2010 et puis là on entend un piano qui jaillit tout d'un coup sur cet accord. Alors que depuis le début on est avec un piano, on entend des gestes, on entend quelqu'un qui se lève, qui fait le tour du piano. On a l'impression vraiment de voir quelque chose qui se passe. Et je me suis posé la question, Colin Roche, c'est est-ce que c'est aussi le cas du compositeur face à cet instrument-là ? Dire, voilà, je suis là, qu'est-ce que je peux faire avec ? Et donc là, on partage un peu l'intimité de la création, ce moment de cet instant où vient l'idée. C'est je teste, je cherche, j'ouvre le clapet, je me jette à l'intérieur, je le tape. Est-ce que pour vous, c'est un peu votre démarche aussi ? C'est de chercher comme ça au fur et à mesure pour trouver la bonne idée ?
Alors toujours chercher et continuer à chercher. Et ce qui est peut-être propre à ma façon de travailler, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la recherche fait partie de l'œuvre finale. Je travaille sous la forme d'un carnet, et ce carnet est donc énoncé, d'une certaine façon, par les interprètes. Ce qui fait que ce que j'appelle l'inventio, la recherche des éléments, apparaît comme un ressassement dont vous parliez tout à l'heure. Et là, en particulier pour cette pièce pour piano, le ressassement était adjoint d'une frustration par rapport à cet instrument qui est mon instrument de base. J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais jeune. J'étais traqueux, frustré. Et quand on m'a demandé d'écrire une pièce pour piano, c'était pour Willem Nachumia à l'époque, je me suis dit qu'il fallait que je mette en scène la réalité de mon rapport à la peur d'écrire cette musique-là, la peur d'écrire pour le piano, et donc de montrer cette frustration, cette impossibilité à aller vers ce que c'est un instrument percussif, mais qui produit quand même des résonances. Et donc tout le début comme ça est comme empêché d'y entrer. Et d'ailleurs, ce premier accord qu'on entend, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un instant qui devient sale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un début qui est comme ça, finalement, très pur, alors que c'est ce qu'on appelle le son sale dans l'histoire de la musique, on s'habitue finalement un peu à ce son, même si on n'y trouve pas forcément de sens, ça c'est propre à chacun. Mais la première fois qu'un vrai son de piano arrive dans cette pièce, il apparaît comme sale. Et donc il met du temps à retrouver sa fonction initiale. Mais j'aime beaucoup ce déplacement. Je trouve ça important.
C'est vrai qu'à chaque fois, je reparle de ce disque-là, La Robe des Choses, qu'on peut trouver encore dans le commerce, et dans lequel on entend vraiment le crayon qui vient gratter sur le papier, et qui est donc au centre de cette performance Pretensio que vous réalisez avec Jacopo Baboni-Schilinghi. C'est-à-dire que vous écrivez, et là, dans La Robe des Choses, on entend vraiment le crayon qui crisse, et on se rend compte de ce pouvoir sonore qu'est le crayon, qu'est le papier, et puis il y a d'autres sons comme ça qui vous plaît énormément, puis des instants de son aussi, c'est la cigarette par exemple. Ce moment où on allume la cigarette, ce moment magique complètement.
Ah, il est absolument magnifique. Alors, il est certainement magnifique parce que je fume, mais il est magnifique en soi, en tant que son. D'abord, quand on fume une cigarette et qu'on l'entend, c'est qu'on est quand même dans un moment de, pas de solitude, mais de plaisir, pour les fumeurs, très intense. C'est-à-dire qu'on entend le crépitement, il y a quelque chose qui se consume à quelques centimètres de soi, quasiment dans les oreilles. C'est au-delà de l'inhalation et il y a quelque chose de très très sensuel dans la cigarette. Et quand j'ai attaqué cette idée de travailler sur la cigarette, il se trouve que c'était d'ailleurs une manière détournée, puisqu'on m'a passé commande d'une pièce de 3 minutes qui allait arriver au début d'un concert où on allait avoir 2 heures de quatuor de Haydn. Les quatuors à cordes de Haydn, pour moi, c'est le Graal. Et je me suis dit finalement, je ne vais pas exister, quoi qu'il en soit. 3 minutes de moi, déjà, en général, ça existe peu. Mais 3 minutes de ma musique avant 2 heures de Haydn, c'est comme si je décidais de passer sur un rouleau compresseur avec le sourire. Et donc je me suis dit finalement, je vais rapporter ces 3 minutes à ce que je fais moi quand il me reste 3 minutes avant un concert, puisque je ne peux pas m'inclure dans le concert. Et je me suis dit, finalement, je fume une cigarette très rapidement et un peu compulsivement. Et c'est en me disant ça que j'ai compris finalement que j'allais travailler pour le violon, que j'allais rapporter le violon à ce qu'il était en tant que cigarette. Comment on consomme un violon? Qu'est-ce qui se consomme dans le violon? On a comme ça une sorte de tube en face de soi pour l'interprète. Et quand on active ce tube à travers les cordes, il y a de la colophane qui crée de la fumée au-dessus des cordes, qui est dangereuse pour la santé, et qui crée un dépôt de colophane aussi sur le bois de l'instrument. Donc j'ai placé d'ailleurs un petit bout de tissu sur le bois de l'instrument, et à chaque fois que la pièce est jouée, je récupère le tissu comme une sorte de cendrier que je photographie et qui donne quelque chose de très joli, parce que finalement, selon l'interprétation, chaque fois la graphie est différente. C'était intéressant, mais j'avais l'impression qu'il y avait un tout, c'est-à-dire que tout mon travail de recherche poétique autour de l'idée de la cigarette arrivait à un endroit. Et c'est une des rares fois où je me suis dit, en fait, j'aurais pas pu écrire autre chose. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire.
La cigarette, mémoire de solitude. Et la cigarette fut Colin Roche, puisque là nous avons vu le parcours d'une cigarette depuis son, quand on l'allume, jusqu'au moment où on l'écrase, on entend vraiment ce son écrasé sur la, les cordes du violon. Là on a une vraie dramaturgie qui s'est créée dans ce parcours, pourtant des sons qui toujours s'articulent entre eux comme posés à des endroits, et c'est propre à votre écriture ça Colin Roche, on en parlait au tout début, c'est vraiment ces, ces objets qui s'imbriquent et puis qui ne sont pas si changeants par rapport à l'autre, qui ne sont pas en réaction, ils sont comme posés comme des instants les uns à côté des autres finalement.
Ben, on peut pas faire chanter une cigarette, on peut pas demander à un volet d'être autre chose que ce qu'il est, on ne peut pas leur demander autre chose, par contre on peut, dans la façon de les présenter, d'y revenir, de zoomer dessus, d'en voir les tropismes, on peut leur donner leur dimension, on peut leur redonner une existence autre que cette espèce de d'utilité sociale. Non, c'est fondamentalement des bijoux poétiques. C'est il faut donner du corps à ceux qu'on n'entend pas, les gens. Et puis pour ce qui est de mon travail, les sons qu'on n'écoute pas, ou qu'on écoute pour ce qu'ils ne sont pas.
Et les déployer dans du temps, puisque là c'était du 3 minutes, ce temps de cigarette. Et je me posais la question, en ayant lu quelques textes que vous avez sur votre site, colinroche.com, la structure de l'œuvre, c'est le travail en train de se faire. Ça c'est vous qui le dites. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée comme quoi le temps se déploie au moment où vous l'écrivez, alors que finalement, le temps que l'on écrit sur la partition ne sera jamais le temps de l'interprétation. Est-ce que pour vous, finalement, en tant que compositeur, vous écrivez du temps ?
Je pense que j'interagis avec le temps. J'ai tendance à penser que ma vie est une longue portée qui a commencé bien au moment où je suis né, et certainement bien avant, et qui résonnera peut-être un peu après, mais que globalement, voilà, cette portée est devant moi. Que parfois, d'abord j'ai pris conscience que je pouvais y apporter quelque chose, que je pouvais le faire résonner vers d'autres, que j'allais y apporter un peu de son, un peu de musique, un peu de poésie peut-être, mais que tout ça c'est une seule et même chose, et que si c'est ce pourquoi je suis fait, mon seul travail c'est de temps en temps d'y porter du sens poétique.
On peut retrouver aussi cette démarche de cette page que vous remplissez au fur et à mesure dans une œuvre, Petite Masse de Cendres. C'est la dernière œuvre qu'on va écouter, dans laquelle finalement on essaie d'éviter cette page blanche, celle qui hante le compositeur. Et puis en fait, vous avez rempli des pages les unes après les autres dans ce projet, Quatuor et Soprano.
Je les ai remplies et je me suis fixé comme règle à cette époque de m'arrêter à la fin de chaque page. Rien ne durerait plus d'une page. Et en plus, j'avais envie de travailler sur la matière de quelqu'un qui dirait « je n'arrive pas à aller au bout de mes pensées ». Et donc la chanteuse ne fait qu'essayer de dire ça, mais de toute façon circonscrit à la page.
Oui.
le tout début de Petite Masse de Cendres, une pièce pour soprano et quatuor à cordes de Colin Roche. Vous avez entendu ces feuilles qui tombent, ces pages jouées en direct et puis qui tombent au fur et à mesure, créant elles-mêmes du son. Un son qui vous a obsédé, Colin Roche, parmi tant d'autres sons. Merci beaucoup, Colin, d'avoir accepté l'invitation pour parler de ces instants. Alors, vous avez plusieurs dates à venir. Alors, tout ça, ça se retrouve sur votre site internet colinroche.com et aussi sur le site de Projet Bloom, dont vous êtes le directeur artistique, projetbloom.com. Alors, quelques dates comme ça, vous serez au Festival de violoncelle de Beauvais pour une création qui s'appelle le Mimosa, Muette Splendeur, un duo pour violoncelle et piano. Ce sera le 13 mai prochain. Et puis également, vous serez à la Bastidone dans le sud-ouest. Le 20 mai, vous parlerez de votre projet d'opéra qui est en cours depuis un moment, un instant qui n'en finit pas. Et c'est un projet d'opéra que vous entreprenez avec Sébastien Brébel. Et par ailleurs, le 18 juin prochain, au Charbon, à Ivry-sur-Seine, en Ile-de-France, vous reprendrez votre fameux Pretensio dont nous avons parlé avec Jacopo Baboni-Schillinghi, où vous serez en train d'écrire. Alors là, qu'est-ce que vous serez en train d'écrire? Est-ce que vous aurez beaucoup de choses à écrire? La question est là. J'invite évidemment tout le monde à venir vous voir. Ça dure 12 heures, c'est ça?
12 heures.
Alors, oui, 12 heures pour voir ce moment, cet instant de création, un moment que l'on peut essayer d'attraper et évidemment qui sera joué, puisque c'est joué par un interprète directement devant le public.
Au fur et à mesure. Voilà.
Merci beaucoup, Colin Roche.
Merci à vous.
À bientôt.
Allez, à vous. Thank you.
fin de notre cinquième épisode du Cri du Patchwork sur l'instant. Merci à Perrine Mingui aux commandes à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Pierre Monteil. Merci à Flora Sternadel et Marie Bouchier pour la préparation de cette émission. La semaine prochaine, une nouvelle thématique s'ouvre à nous, ou plutôt nous invite à nous recentrer sur nous. Nous parlerons d'intime. Et pour commencer, nous recevrons Aliénor Dauché et Dimitri Kourliansky, un duo de performeuses et compositeurs qui viennent tout juste de créer Sous Vide, une performance où tout se passe dans un frigo, comme une sorte de caverne où Aliénor Dauché nous invite à nous rapprocher d'elle au plus près par l'entremise des sons capturés dans ce frigo fermé et traités en temps réel par Dimitri Kourliansky. Une expérience de l'intime pour un spectateur si éloigné de la source sonore de la création originelle. L'intime comme rencontre au plus près. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr. Vous pourrez également podcaster l'intégralité du Cri du Patchwork. Chers écoutants,
si je fais 1, Togaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit. Il est temps pour moi de passer la main à Anne Montaron et son à la brévée.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.